Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en août 2010 et c'est l'épisode numéro 41. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de la technologie, d'Internet, des gadgets, de Google, de Verizon, de la neutralité du net, de Hewlett-Packard et de plein d'autres choses du genre. Salut à vous, mes gentils co-animateurs, dont c'est la première fois pour le Rendez-vous Tech.
Et oui, c'est un bizutage pour moi.
Donc j'ai interrompu le deuxième animateur. La première douce voix que vous entendez, c'est une voix que vous connaissez bien, puisque c'est celle de Julien de Geek Inc, qui est le podcast vidéo le plus populaire de la planète.
Presque. Attention, mesdames et messieurs.
Tu vas bien, Julien ?
Bah écoute, parfaitement. Enfin, pas trop finalement, parce que c'est la reprise pour moi, tu vois, premier jour de boulot et je suis vraiment explosé quoi en fait.
Du coup.
Mais bon, il n'y a pas de souci, ça va le faire.
D'accord, ok. Bah, en tout cas, je te remercie d'être là. Ouais, ça fait, je sais pas, des mois qu'on essaie de se coordonner pour,
oui,
pour te faire venir. C'est pas facile, monsieur est occupé.
Ah ouais, on n'a plus le temps de ministre.
Ouais, je vois ça. Bon bah écoute, pour la peine, voilà, premier jour, retour au boulot et tac, le rendez-vous tech. J'espère que tu vas briller dans l'émission. Et la deuxième douce voix que vous avez entendue et que vous connaissez aussi puisque c'est le troubadour de la blogosphère française, c'est celle de JC Frog, célébrissime chanteur de notre contrée. Comment vas-tu ?
Eh ben, ça va très bien. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir, comme on dit.
Eh bien, écoute, le plaisir est partagé. Si tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro, ça sera encore mieux. On t'entendra un peu mieux. Oui, si vous connaissez pas Jérôme, JC, je vous recommande son blog. On vous en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il fait des chansons assez distrayantes, amusantes, touchantes parfois. Vous irez découvrir ça. On vous donnera tous les détails en fin d'émission. Avant de parler un petit peu plus de tout ça, je voudrais comme toujours remercier ceux d'entre vous qui nous ont laissé un petit pourboire sur le blog de l'émission. Cette fois-ci, j'envoie un immense merci à Eric, à Yves qui me propose une fondue à Genève. Et bah écoute Yves, dès que je passe à Genève, je te passe un coup de fil parce que la fondue, j'aime bien ça. Et puis avec le temps de mois de novembre qu'on a sur Paris depuis quelques semaines, ça collerait plutôt pas mal. Et enfin à Jérémy, donc merci à vous trois d'avoir fait cet effort, de nous avoir laissé un petit pourboire sur le blog de l'émission. Et on a un programme pas hyper chargé, mais plutôt amusant.
Ouais.
Et je pense que, enfin, je sais pas comment ça va se passer parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu des gens qui étaient là pour la première fois dans l'émission et là j'en ai deux d'un coup.
Ça va mal se passer, à mon avis.
Il n'y a aucune raison que ça se passe bien. Hein, de toute façon.
C'est clair, ça va déraper forcément.
Bah, en plus, la chatroom disait, qu'est-ce qu'il disait ? On va vous faire votre fête ou un truc du genre, je ne sais plus. Ça va être marrant.
Merci, c'est rassurant.
Oui, et d'ailleurs, je tiens à vous signaler que j'étais en retard pour arriver pour l'émission. Et je me suis dit, est-ce que je me brosse les dents, est-ce que je me brosse pas les dents ? Et finalement, je me suis brossé les dents parce que je me suis dit, avec la qualité de mon micro super professionnel, ça va sentir jusque dans les écouteurs des gens. Donc voilà, petite précision importante. Effectivement, ça commence pas mal. Dernière précision quand même, avant de commencer l'émission. Pour ceux qui ont écouté l'émission la dernière et qui s'inquiétaient pour Yann, moi je me suis... Alors, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, les deux. Enfin, si, j'y sais, je sais que tu étais là, dans la chatroom. Mais on ne savait pas où était passé Yann. Et ça a été la grande angoisse. Et moi, je me suis carrément inquiété. Je me demandais où était notre ami Yann Allais. Et il s'est trouvé que finalement, il va... Bon, il va très bien. Moi, je me suis vraiment, vraiment inquiété. Quoi. J'avais pas de nouvelles ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni rien. Et finalement, il était juste en vacances et tout va bien. Donc, vous pouvez tous vous rassurer. Il va très bien. Il était, il m'a envoyé un message quelques jours plus tard en me disant désolé machin. Et le pire, c'est que visiblement, il m'avait prévenu. Il m'avait attrapé sur Skype à un moment et il m'avait dit ah au fait, je suis en vacances pour la prochaine émission. Je pourrais sans doute pas être là. J'avais dit ok, pas de problème. Mais j'étais occupé à d'autres trucs et je m'en souvenais pas. Donc du coup, je me suis auto-inquiété moi-même. Ça vous donne un petit peu le niveau. Voilà, maintenant que vous êtes rassurés, on peut se lancer dans les affaires technologiques de ces deux dernières semaines. À commencer par l'histoire entre Google et Verizon, qui a fait les choux gras, parce que c'est pas non plus une histoire de tabloïd, mais ça a quand même fait beaucoup de bruit. Vous avez suivi un peu cette histoire tous les deux ?
Oui, un petit peu. Enfin, on a vu traîner un peu partout sur le web. Et toi, Jérôme ?
Non, moi j'ai regardé un petit peu ce que tu avais envoyé là-dessus. Je connais pas bien le dossier. Hein. Je vais pas ramener ma science là-dessus, mais.
Vas-y.
Non, rien. Je disais que je viens pour apprendre plus que pour enseigner. Hein.
Écoute, si tu peux nous donner tes impressions en chanson, ça sera parfait.
Bien sûr, en
improvisé. Ce qui s'est passé, c'est que comme vous le savez, Google est l'un des grands défenseurs de la neutralité du net. On va pas repartir sur ce qu'est la neutralité du net, juste en deux mots, c'est le fait que tous les contenus sur Internet soient traités exactement de la même manière et que personne ne puisse dire tel contenu a la priorité par rapport à tel autre contenu. Et c'est une manière de préserver l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui et un Internet où tout est fait librement. Quel que soit le site ou le service que vous utilisez, les tuyaux sont neutres. Ils ne donnent pas de priorité à un type de contenu ou un autre. Bref. Google était le grand défenseur de la neutralité du net. Ils ont annoncé en grande pompe que le net devait rester neutre, que c'était un principe fondateur du réseau. Pendant des années, c'est ce qu'ils ont dit. Et on a entendu parler, il y a deux semaines environ, d'une sorte de discussion secrète qu'ils étaient en train d'avoir avec Verizon, qui est l'un des grands, grands fournisseurs d'accès aux États-Unis, notamment pour les téléphones portables, et qu'ils seraient en train de discuter de cette question de neutralité du net de manière un petit peu suspecte. Alors, les choses sont apparues il y a environ une semaine, 10 jours, et on ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Je vais vous la faire courte. On a appris quelques jours après la sorte de mini-scandale qui a éclaté, de quoi il s'agissait vraiment. C'est un texte qui est un texte de proposition, de suggestion, pour la gestion de la neutralité du net sur les réseaux physiques, filaires, câblés, et sur les réseaux,
over the air.
Voilà.
Mobile.
Mobile, les réseaux téléphoniques, Wi-Fi, etc. Et ce qu'ils disent, ce qui a terriblement choqué la blogosphère, c'est que, en gros, ils disent les réseaux câblés doivent rester totalement neutres dans la limite du raisonnable, du légal et avec quelques autres provisions. Et les réseaux non câblés, les réseaux sans fil, peuvent être contrôlés et avoir des priorités. Par exemple, les vidéos qui prennent beaucoup de bandes passantes auront la priorité sur des emails. Ce que ça veut dire, c'est qu'un email, s'il a une demi-seconde de décalage, ça ne va pas vous changer votre vie. Par contre, une vidéo, si elle a une demi-seconde de décalage, ça va faire... ça va réduire la qualité de la vidéo. Voilà, en gros, je schématise énormément, mais en gros, ce qu'ils ont mis dans ce texte qu'ils proposent comme ça, publiquement, sans que ça soit une loi ou que ça ait effet un effet officiel. Le problème, c'est que c'est très loin de ce qu'ils disent, ce qu'ils disaient à l'origine, et surtout, à mon sens, c'est une vision assez réductrice de ce qu'est Internet et surtout de ce que pourra être Internet, parce que pour tout un tas de raisons. Bon, je parle beaucoup, je vais peut-être demander à Julien ce que tu penses de ce texte. Est-ce que tu l'as lu, le texte, Julien ?
Oui, je l'ai lu, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait autour. Bon, j'ai creusé un petit peu sur la neutralité du net, mais a priori, tu veux pas trop qu'on en parle.
On peut parler, mais je veux dire, ne réexpliquons pas tout ce qu'est la neutralité du net.
Alors déjà, sur le point qu'on aborde aujourd'hui en ce qui concerne Verizon et Google, c'est essentiellement une histoire de gros sous, une fois de plus, et c'est un petit peu catégoriser finalement différents utilisateurs. Tu vois, par exemple, je vais être chez AT&T, par exemple, et je vais pas avoir un accès forcément intéressant à l'information qui pourra, pour le coup, être potentiellement filtré également. Ça, c'est une autre partie du débat. Bon, c'est une histoire de business, de gros sous. Ce qui est vraiment gênant dans le fond, c'est que Google, qui il y a 15 ans était une start-up, est en train de museler d'une certaine manière le réseau pour rester prioritaire et rester au devant de la scène. C'est ça le fond du problème, ouais, de la neutralité du net, hein, c'est de vraiment de museler l'Internet.
Ouais. C'est ça qui est terrible, en fait, à mon sens, quand j'ai lu le texte. C'est ça qui m'a choqué, c'est que ce texte est écrit pour le réseau Internet d'aujourd'hui, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il pourrait plus ou moins se défendre pour le réseau qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire un réseau où le sans-fil n'est pas le moyen d'accès principal, la bande passante sur le sans-fil est relativement limitée, donc on pourrait se dire, à la limite, pourquoi pas donner la priorité aux trucs plus volumineux, à la limite. Mais le problème, c'est que quand on imagine Internet, enfin quand on pense à Internet, on ne voit pas que le réseau d'aujourd'hui. On se dit comment est-ce que le réseau va évoluer, quelles sont les possibilités qu'un réseau totalement ouvert va pouvoir offrir. Et c'est là que le bas blesse vraiment. Parce que, par exemple, il n'est pas du tout impossible que le réseau sans fil devienne le moyen d'accès principal à Internet d'ici 10 ans, par exemple. Pourquoi pas ? Et à ce moment, ça serait un gros problème d'avoir une gestion de cette prioritisation des données sur le réseau sans fil. Bon, il y a un autre truc qui m'a... Vas-y, je parle beaucoup.
Non, mais juste, l'argument, c'est quoi l'argument officiel ? C'est une peur de la saturation de...
Non, c'est de la qualité de service. En gros, dire Google, qui possède finalement YouTube, je reprends l'exemple de la vidéo, dit à Verizon, finalement, Verizon, vous avez donné la priorité sur vos abonnés quand ils accèdent à YouTube pour qu'il y ait une bonne qualité de l'expérience utilisateur. C'est un terme que j'emploie régulièrement. Et en échange, moi, je vous donne de l'argent. Tu vois, c'est un échange de bons procédés, entre guillemets, mais d'un point de vue commercial. Donc pour l'utilisateur qui est Verizon, très bien, tout va bien, je veux dire, pour lui, il a une qualité d'expérience fabuleuse, mais pour le Pékin moyen, qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans un forfait Verizon, ben là, la qualité est vraiment est forcément pas adéquate.
Ouais.
Je ne sais pas si tu avais compris ça, Patrick.
Bah, plus ou moins, oui. À mon avis, ça va même encore plus loin. Parce que, par exemple, même sur la question du réseau filaire, parce que là, on ne parle que de réseau sans fil, mais sur la question des réseaux filaires, moi, il y a des termes qui me dérangent énormément. Par exemple, ils disent très clairement dans le texte, que j'ai lu aussi, bien sûr, ils disent le réseau reste neutre, à condition, pour les utilisations légales et raisonnables, et sans faire l'apologie du piratage. C'est pas du tout quelque chose, une chose à laquelle je pense précisément, mais quand tu dis c'est dans la limite des activités légales, déjà, ça veut dire qu'il faut définir ce qui est légal et pas, ou pas. Donc, si tu as des nouvelles technologies ou des utilisations qui sont à la limite, par exemple, évidemment, là, tout le monde va penser au P2P, à BitTorrent immédiatement, mais il faut aller un peu plus loin. On parlait la dernière fois de Wikileaks. Si quelqu'un décide que ce n'est pas légal, eh ben, les fournisseurs d'accès pourraient le bloquer sans avoir de conséquences. On peut imaginer d'autres services sur lesquels, par exemple, disons que le P2P en tant que technologie ait été poussé par les lobbies
des majors,
était poussé pour devenir illégal en tant que système complet. Eh ben, on aurait pu imaginer que cette technologie qui sert énormément à énormément de choses devienne complètement, enfin, soit muselée dès le début. Et on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Skype, par exemple, marche en P2P. Verizon, qui fait du réseau qui fait du téléphone sans fil, si Skype ne leur plaît pas, ils vont dire Skype nous prend trop de bande passante. C'est pas raisonnable, tu vois. Les gens qui utilisent Skype utilisent beaucoup trop de bande passante, ils font de la vidéo et de l'audio. On considère que c'est pas raisonnable, donc on va déprioritiser Skype, et donc Skype devient inutilisable. Enfin, tu vois, il y a énormément de loopholes, ce qu'on appelle des loopholes, des petits raccourcis dans ce texte qui peuvent être utilisés détourner les bonnes intentions du texte, enfin les bonnes intentions théoriques. Et ça me dérange énormément.
Ouais, ce qui est assez délicat dans ce sujet, c'est que ça fait intervenir de nombreux acteurs. Bon, t'as les grosses boîtes type Google, etc., mais t'as également les fournisseurs de tuyaux, les providers. Tu vas également avoir les startups. Et finalement, le débat, il y a un problème d'éthique également. C'est jusqu'où on va en termes de législation pour cadrer tout ça. Alors, il y a un article hyper intéressant de Read Write Web, RWW, sur la neutralité du web. Alors, il y en a plusieurs, en fait. Il y en a un qui est très, très intéressant, ce qui concerne cette thématique, qui explique, en gros, la pensée des différents intellectuels américains qui débattent sur le sujet, et c'est très, très, très varié. Mais ce qui ressort essentiellement, c'est le fait de brider d'une certaine manière ces canaux de communication, ce serait, en gros, museler l'innovation des startups sur le web. En gros, la start-up naissante n'aurait pas les mêmes chances que le blockbuster qui achète d'une certaine manière l'exclusivité des tuyaux auprès d'opérateurs de communication.
C'est ce que j'essayais de dire peut-être un peu maladroitement en disant il y a peut-être des nouvelles technologies qui vont arriver. On ne sait pas de quoi sera fait l'Internet de demain.
Complètement. Quoi. Et comme tu le disais tout à l'heure, oui, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait l'Internet de demain. Et en ce qui concerne le contrat ou le bis qui est en train d'être signé entre Google et Verizon, tu as l'impression que voilà, ils imaginent que l'Internet sans fil mobile de demain, bah, il sera à peu près identique à celui qu'on connaît actuellement. Ce qui n'est pas forcément le cas. On ne sait pas, en fait. Et donc, ce serait, encore une fois, museler l'évolutivité.
Il y a encore une chose qui m'a dérangé dans le texte, c'est une question un petit peu floue dont ils parlent. Ils disent « Et il pourrait y avoir des services supplémentaires séparés d'Internet, de l'Internet normal et classique, qui pourraient être payants et qui seraient séparés d'Internet classique. » Et ils pensent, par exemple, imaginons que Verizon crée un service genre YouTube exclusif, j'en sais rien, ou alors, je ne sais pas moi, les films exclusifs. Et à ce moment-là, si c'est séparé d'Internet classique, entre guillemets, ça pourrait être facturé à des tarifs supplémentaires, ou ils pourraient faire payer les fournisseurs de services. Toute cette partie du truc n'est pas claire du tout. Si c'est des services supplémentaires qui utilisent le réseau IP, qui passent par les câbles du réseau IP, qui sont en parallèle d'Internet, bah, finalement, c'est Internet. On ne voit pas la différence, et ils ouvrent la porte, là encore, un truc abusif où tu te dirais « Bon, bah, j'achète mon abonnement chez Verizon avec le pack Internet classique et puis en plus le pack, je sais pas moi… »
Internet Premium.
Voilà, exactement.
C'est exactement ça.
Ouais. Et ça fait des années que les fournisseurs d'accès cherchent à faire payer, en plus des utilisateurs finaux, ils cherchent à faire payer les fournisseurs de services pour tirer des deux côtés, en fait. Et là, ça serait un moyen qui ouvre complètement la porte à ça. Et pour essayer de conclure, pour ma part en tout cas, c'est un 180 degrés complet de la part de Google qui est horriblement décevant, et j'irai même plus loin, qui est terriblement inquiétant. Alors, ce n'est pas du tout une loi, c'est pas du tout, et la FCC qui doit réguler ces choses-là a dit « calmons-nous les gars, vous ne faites pas les lois, et il serait temps de penser aux consommateurs maintenant ». Mais il n'empêche que les gens du Congrès aux États-Unis qui veulent légiférer sur ces choses-là, qui ne s'y connaissent pas trop, eh ben ils vont prendre ce texte, ils vont le lire, ils vont se dire « bon, bah, Google, Verizon, c'est des grands du secteur, ça se trouve, ils ont raison, allons dans cette direction ».
Mais tu sais, plus proche de chez nous, il y a un rapport gouvernemental en ce qui concerne la neutralité du net qui est sorti, enfin qui va sortir, et on a quelques fuites, quelques échos, notamment sur différents sites d'infos. C'est à peu près la même chose, hein, finalement, tu as presque l'impression que les grands opérateurs type Orange, SFR, etc., tiennent la main des différents rédacteurs de ce rapport. Donc il y a clairement un écosystème. Finalement, les opérateurs, oui, prennent directement part à la vie, au business et à la rédaction des différentes lois. Bon, voilà, ça fait partie du truc. Bon, c'est vraiment très, très, très regrettable. Et comme tu dis, le problème, c'est que les parlementaires qui ne se connaissent pas forcément dans ce domaine, voilà, va falloir qu'ils fassent leur choix, sachant que eux-mêmes sont influencés quand des lois sont votées au Parlement. T'as pas mal de réseaux d'influence au sein du Parlement, des groupes qui sont eux-mêmes financés par différentes sociétés, qui sont là pour influencer les parlementaires. Trafic d'influence, donc, d'une certaine manière. Bon, maintenant, ça fait partie du jeu, mais c'est très dangereux parce que, encore une fois, si demain Google décide de tuer un site, comme ça a été le cas par exemple il y a quelques jours, je crois, ils sont en bisbille, Google, en ce qui concerne Android avec Oracle sur le développement de certaines fonctionnalités en Java, eh bien Google a tout simplement décidé de gicler Oracle de ses recherches, de son moteur de recherche. Oui, je prends des raccourcis.
Disparu du moteur de recherche pendant quelques heures. Oui, ça a eu des conséquences.
Et une fois de plus, là, on va un petit peu plus loin, mais le contrôle de l'information, c'est toujours très, très, délicat, puisque rien n'empêche de Google, effectivement, de manipuler l'information d'une certaine manière, si vraiment il le désirait.
Ouais. À vrai dire, là, ce qui est vraiment inquiétant pour moi, c'est que ça soit Google qui se mette dans cette position, parce que ils ont toujours été le défenseur de la neutralité du net. Et là, sans aller jusqu'à dire que ça y est, c'est la fin du monde, la neutralité du net est morte, etc., comme certains l'ont prétendu, faut quand même pas exagérer, mais c'est vrai que c'est une porte ouverte à certains abus et il faudrait même pas l'entrouvrir, la porte, à mon sens en tout cas. Moi, mon sentiment, c'est celui-là. Faut même pas l'entrouvrir parce que sinon, c'est le début de, ça peut être le début de gros problèmes.
Si tu veux, la logique de Google, depuis quelques années, c'est de racheter énormément de petites startups qui rajoutent pas mal d'idées fraîches à Google. Hein, ils sortent pas leurs idées de nulle part, ils rachètent énormément de sociétés. Donc finalement, pour eux, le modèle qu'ils veulent mettre en place leur pose aucun problème, puisque de toutes les manières, il y aura toujours des idées qui naîtront de startups. Même si elles ont du mal à émerger, comment dire, à s'éparpiller sur tout le web, Google pourra les détecter très facilement puis les racheter, donc pas de problème pour eux.
Ouais, c'est sûr. Jérôme, on te laisse pas beaucoup parler.
Comme je te dis, je connais pas bien le dossier. Moi, ça m'a l'air quand même drôlement compliqué, cette affaire, et je connais pas bien. Je me demande toujours, qu'est-ce qui est avéré, qu'est-ce qui est des inquiétudes.
Qu'est-ce que tu connais de la neutralité du net, toi, en fait? Est-ce que tu... Parce que toi, t'es ingénieur, si je ne m'abuse.
Ouais. Moi, je fais du développement dans l'industrie, donc je fais des interfaces homme-machine, donc
d'accord.
Je suis pas propre à parler du web, mais...
Non, c'est sûr, mais c'est quand même intéressant de savoir ce que connaît... Parce que nous, des gens comme Julien et moi, on est vraiment plongés là-dedans. Mais quelqu'un qui est quand même dans le domaine de la technologie, mais pas directement concerné par ces sujets, je serais curieux de savoir ce que tu en sais et quelle est ton analyse. Et puis, en tant que un petit peu novice, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que nous, on se monte la tête, on se monte le bourrichon, ou est-ce que c'est pas si important, ou on se trompe peut-être finalement?
Mais je sais pas, justement, plus d'extérieur, oui, j'ai parfois un peu l'impression que on a souvent des inquiétudes comme ça. Moi, des grosses boîtes comme Google, je pense qu'elles ont quand même un énorme capital confiance qui est quand même une part importante, à mon avis, hein, de quand même de l'adhésion générale qu'ils ont. Alors c'est vrai que maintenant, bon, on a connu d'autres trucs comme ça qui, effectivement, en devenant gigantesques, ont changé de mentalité. Donc bon, moi je saurais pas affirmer si vraiment ils sont en train de devenir le evil, le vilain méchant d'internet. Ou... Moi, j'ai tendance à garder un peu de confiance. Maintenant, j'ai pas de pièces à produire pour les défendre. Ouais. Donc,
la neutralité du net, en fait, ça t'inquiète pas plus que ça, finalement.
Ah bah, je fais pas partie des. Je m'amuse souvent à dénoncer un peu certaines paranoïas, mais en même temps, encore une fois, je veux pas affirmer des choses. Ouais. Bah, là, j'ai vu, il y a encore un truc qui est sorti justement à propos de la neutralité du net. Là, sur écran, il y a eu une attaque vraiment sévère de, comment il s'appelle là, de Benjamin Bayard.
Oui.
Qui est sorti, je peux vous filer le lien si vous voulez, qui descend en flèche le rapport de notre ami NKM.
Et ouais. Qui, ouais.
C'est vachement violent, quoi. Ça pose un peu le problème que vous disiez tout à l'heure. Alors, bon, c'est pour ça, moi, c'est pas pour me planquer, mais si je me prononce pas, c'est parce que je sais pas vraiment. Ouais. C'est le problème de, pour reprendre un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est de qui est consulté pour ces grands rapports, ces grands. Parce que ce qui se dégage souvent, je pense. Au niveau de tous ces trucs-là dont on rigolait un peu, là, d'Adopi, de tous ces problèmes-là, c'est qu'il y a quand même très souvent la suspicion de que tout ça s'est ficelé par des gens qui sont pas du tout dans le bain.
Bah, à vrai dire, là...
ou au contraire, qui le sont trop et qui ont des,
oui,
des
intérêts. Alors, pour certains, oui, pour ceux qui ont des intérêts à faire valoir, effectivement, il y a forcément des intérêts qui font des lobbies, tout ça, bien sûr. Mais
à vrai dire,
je crois pas au grand complot non plus, mais je sais bien.
Oui.
Business, je sais qu'il y a des grosses boîtes. En plus, souvent, les gens qui sont là-dedans sont passés aussi parfois par des grosses boîtes. Il y a des gens qui défendent des intérêts. Il y a des religions. Moi, j'ai croisé quelques personnes un peu. J'ai déjà entendu plusieurs fois des propos montrant à quel point des gens de chez Free sont quand même vus comme des dangereux, quoi.
Ouais. Ouais.
Il y a des mythologies et puis des intérêts qui se rentrent un peu. Disons que pour se prononcer, je trouve qu'il faut quand même être vachement compétent parce que, comme il y a effectivement énormément de paramètres, c'est pour ça que je me mouille pas trop.
C'est ce qui est un petit peu inquiétant dans ce rapport que tu évoquais, Julien, et dont tu parlais aussi, Jérôme, de NKM, parce que elle, pour le coup, c'est la seule c'est la seule personnalité politique française, à mon sens aujourd'hui, qui comprend un petit peu les tenants et les aboutissants et les enjeux de l'économie numérique et du net en général, en tant qu'idéal presque. Et quand on me dit que son rapport, le rapport dont elle a un petit peu la maternité en quelque sorte, est aussi coupable que ce dont on a l'habitude d'entendre sur la neutralité du net de la part des hommes politiques, moi ça m'inquiète beaucoup. Moi je l'ai pas lu le rapport, mais Julien, est-ce qu'il est effectivement aussi scandaleux que le dit Read Write Web?
Il y a un élément qu'on n'a pas abordé, c'est le Deep Packet Inspection. Si tu veux, il y avait une question, tu parlais tout à l'heure de filtrage d'une certaine manière, de données. Oui. Hein, l'idée, donc, c'est de déterminer quand tu as une trame qui passe, si c'est du peer-to-peer, si c'est du HTTP lambda, machin. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut analyser les paquets. Et donc, par ce biais-là, soi-disant pour améliorer l'expérience utilisateur ou favoriser certains types d'utilisateurs qui ont une offre premium, etc.
Je suis désolé, chaque fois que tu dis l'expérience utilisateur, ça me fait marrer maintenant. Donc,
bah, mais c'est normal.
On va vous parler de plein de choses, mais presque.
Si tu veux, par le biais de ce moyen finalement plus ou moins économique ou une offre relativement qualitative, ils vont introduire un mécanisme technique qui permet de brider d'une certaine manière l'internet, de le museler. Alors une fois de plus, pas forcément sur la partie start-up, etc., mais pour le commun des mortels, si moi demain je veux utiliser un BitTorrent pour télécharger ce qu'a mis par exemple Corben sur son site sur le DEFCON et Black Hat, je pourrais pas. tu vois, c'est ce genre de choses, quoi.
Dans la chatroom, d'ailleurs, les gens disaient, quand on évoquait Skype, Skype marche en peer-to-peer, Spotify marche en peer-to-peer, beaucoup de sociétés distribuent leur contenu en peer-to-peer, notamment Blizzard, qui est une société pour laquelle je travaille, qui distribue des fichiers très volumineux. Enfin, bon, bref, on va pas s'étendre beaucoup plus longtemps non plus, on en a beaucoup parlé, mais je crois que la conclusion de cette histoire, c'est que c'est pas du tout la fin de la guerre ou l'apocalypse ou l'invasion des aliens, hein, faut pas exagérer, mais c'est un tournant inquiétant, surtout de la part de Google, quoi. Ce genre de discours, on les avait déjà entendus de la part d'énormément de gens. De la part de Google, c'est la première fois, et c'est inquiétant.
Mais tu parles de... Bah, t'imagines demain que, si je reprends ton exemple, que Google mette en place des principes qui font que Skype sombre.
Disons que c'est pas aussi clair que ça, là, on prend clairement les extrêmes, mais...
Parce que c'est perdant-perdant, non, c'est pas perdant-perdant des trucs comme ça, parce que...
Non, bien sûr, mais disons que ceux qu'ils sont en train d'évoquer, les possibilités qu'ils sont en train d'évoquer avec Verizon, pourraient, dans une certaine mesure, sur les réseaux sans fil, avoir des conséquences qui seraient pas de sombrer Skype, mais peut-être de ne pas permettre à d'autres sociétés plus tard, d'autres technologies, de ne pas évoluer aussi facilement que les startups le peuvent aujourd'hui. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on n'arrive pas à définir exactement ce qui pourrait se passer parce que les règles qu'ils instiguent figent un petit peu, sont faites pour l'Internet tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce que je disais au début. Et si les choses changent, bah, peut-être qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut dans ce nouveau panorama. Donc... En gros, on veut laisser toutes les possibilités ouvertes et certains disent, bon, bah, telle qu'est la configuration aujourd'hui, rendons les choses plus faciles pour tel et tel et tel truc. Et nous, on dit, si vous rendez les choses plus faciles pour tel et tel et tel truc, eh ben, si la configuration change, ça sera plus adapté et on pourra plus s'en sortir. Donc,
Moi, si j'ai une conclusion à donner, c'est plutôt de laisser vivre l'Internet comme il vit actuellement, sans réelles règles. C'est un écosystème qui se régule tout seul, je pense. C'est mon avis. L'Internet qu'on connaît actuellement, moi, me convient parfaitement, même s'il est d'une certaine manière relativement bridé. Maintenant, il ne faut pas se brider d'un point de vue technologique, notamment sur les réseaux sans fil mobile. C'est extrêmement important parce qu'à mon avis, demain, on n'aura que du mobile.
C'est très possible. Bah, disons que le truc, c'est que je perds... Merde, j'étais en train de dire un truc super intelligent et puis tout à coup, ça m'a échappé.
Ça m'arrive souvent.
Dame Ned.
Je sais pas si c'est la... Ouais. J'entendais... c'est Loïc Lemaire, je crois, qui disait qu'en Asie, tout produit, quoi que ce soit qui n'ait pas pensé mobile, ils sont entièrement en mobile là-bas.
Complètement, oui, bien sûr. Bah, les taux de structure, les coûts de la structure en mobile sont beaucoup plus faibles. Donc, oui, oh là là, ça m'a rééchappé. Mais c'est pas possible. Ah oui, non, si, c'est bon, je l'ai. Ce que je voulais dire, c'est que la réponse aux difficultés de bande passante, c'est pas de donner de la priorité, c'est d'augmenter la bande passante en général. Je veux dire, il y a 15 ans, on aurait dit... on va pouvoir envoyer des MP3 et des fichiers vidéo monstrueusement énormes par YouTube ou par des trucs comme Hulu ou ce genre de choses par Internet, personne ne vous aurait pris au sérieux. Eh ben, les gens ont fait les investissements qu'il fallait, le net s'est développé, le réseau s'est développé, et aujourd'hui on a des capacités qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 15 ans.
Mais nous, on va avoir la fibre chez nous.
Mais voilà. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut la solution, c'est pas de limiter certaines choses, c'est d'augmenter la bande passante. Et voilà.
Ouais. De laisser vivre l'écosystème. Voilà.
Laissez-les vivre.
Mais c'est exactement ça. Tu vas monter un fond, tu sais, de sauvegarde de l'Internet.
Ouais, bah, il faudra peut-être arriver à ça un jour. Bon, allez, parlons d'autre chose. Ouais. Une histoire, là, je parlais de Chougra et d'histoire de People. Et bah là, c'est presque le cas. C'est l'histoire du PDG de Hewlett-Packard qui s'est fait virer dans des circonstances hyper mystérieuses. Je pense que s'il y avait eu un petit peu plus de news tech, cette histoire n'aurait pas fait autant de bruit. Mais là, pareil, c'était pendant 10 jours. Sur tous les sites, on se demandait ce qui se passait dans cette histoire. Et c'est un truc plutôt... Enfin, à la fois marrant et surprenant. Ce qui s'est passé, c'est que le PDG de HP, qui était le sauveur de la boîte, parce qu'après le départ de Carly Fiorina, qui était l'ancienne PDGère, la boîte était... Ah bah, damned. J'ai un petit coup de fil, je vais vous laisser 2 secondes meubler les gars et je reviens. Désolé.
Ok, bon, je vais prendre le relais alors. À moins que tu veuilles le faire, Jérôme.
Non.
Donc l'idée, en fait, ce que vous voulez raconter, Patrick, finalement, c'est que le PDG de HP s'est fait gicler parce qu'il y a ce qu'on appelle une cougar. Alors c'est une jeune femme qui aime bien... alors c'est l'inverse, en fait. C'est pas une jeune femme, en effet. C'est l'opposé de la cougar, donc c'est de la jeune femme qui en gros cherche à se faire un mec un peu vieux et plein aux as de préférence. Donc cette femme a été embauchée par HP pour faire je ne sais quoi et le PDG de HP s'est fait gauler en train donc de sortir avec cette nana, mais sous couverture
harcèlement sexuel.
Ouais, voilà, harcèlement sexuel, mais enfin celle qui l'a attaqué, si tu veux. Mais ce qui s'est passé à l'origine et ce qui a vraiment mis à mal le PDG de HP, c'est que finalement pendant ces rendez-vous un petit peu galants, se financer finalement des OP via les fonds HP. Donc pour sortir, ouais,
c'est des notes
il a
de frais
resto,
un peu des notes de frais pas très voilà. Carrées, quoi, on va dire.
Exactement.
Ce qui est bon. Et du coup, merci d'avoir...
pas très bien meublé, je me suis un peu pris des pieds dans le tapis.
c'est pas grave, merci à vous, c'est un coup de fil que je pouvais pas éviter. Désolé. Oui, donc effectivement, le mec, il y a une sorte d'affaire de harcèlement sexuel par rapport à une collaboratrice, non pas qui faisait pas partie de HP, mais qui était une collaboration de travail d'une société extérieure, une indépendante, une histoire de harcèlement sexuel non avéré. Donc, a priori, on ne sait même pas si ça a effectivement été ça ou si c'est simplement que il y a eu une nana qui voulait faire un procès pour avoir de l'argent, mais bon, finalement, ça s'est pas bien fait. Donc, ça n'a pas du tout été avéré. Dans ce cadre-là, on a découvert des notes de frais pas très claires, mais bon, on parle de quelques, j'en sais rien, je sais pas du tout, mais genre quelques milliers, quelques dizaines de milliers de dollars par rapport au miracle qu'il a fait au sein d'HP. Bon, c'est beaucoup, hein, évidemment. Et moi, je suis le premier à dire, tu vois, tu déconnes, il n'y a pas de raison que lui, il soit traité différemment qu'un autre de ses managers, mais...
C'est pas Steve Jobs qui ferait ça, hein.
mais tu vois le truc c'est que il a fait effectivement quelques petits écarts avec ses notes de frais. Bon, tu lui mets une tape sur la main, tu lui fais rembourser l'argent qu'il doit et voilà, il a sauvé la boîte quoi. Les actions de la boîte sont remontées en flèche, la boîte est bénéficiaire à fond, enfin, c'est lui qui a acheté Palm, qui a eu la clairvoyance de se battre pour acheter Palm. Bon, le clou du truc, ça rigole pas avec ça. Non, mais c'est pas juste ça, il y a un truc bizarre dans cette histoire.
Le clou du truc, je termine juste là-dessus,
c'est que la nana en question, le truc qui a fait le petit sel dans toute l'histoire, c'était une actrice de film pas pornographique, mais genre érotico. Voilà. Donc, c'est une histoire super bizarre, on sait pas ce qui s'est passé. Et au final, ce qui est clair, c'est que la raison qui est invoquée des notes de frais machin pour l'avoir viré, c'est clairement, enfin, ça sent pas bon, quoi. Alors ensuite, il y a eu des explications par milliers. On sait pas trop lesquelles sont valables ou pas, mais vous avez une théorie, vous, si vous vous lâchez?
La théorie du complot. Non, moi, je pense que... Enfin, je me permets, Jérôme. Je pense que y a les actionnaires sont quand même... pas mal derrière. Les actionnaires, il y a quand même eu des pertes financières. Ce qui a fait un petit peu déborder le vase, c'est le parachute doré finalement qui a touché le PDG lorsqu'il a été viré. Enfin, il a été mis à pied. 50 millions de dollars. Là, ils sont.
Non, mais il l'aurait pas touché s'il l'avait pas viré.
Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, mais il a été globalement viré pour faute grave, d'une certaine manière. Détourné du fric de HP pour des fins personnelles. Donc logiquement, il n'aurait pas dû les toucher, hein, les 50 millions de dollars. Il les a quand même touchés, a priori. Enfin, c'était en discussion. Et alors les actionnaires, ils ont dit c'est pas possible, machin. Mais avant ça, je pense que c'est un coup monté, clairement. Les actionnaires étaient pas du tout d'accord par rapport à la stratégie qui était développé par HP, et il voulait gicler le PDG et pourquoi pas l'équipe qui l'entoure.
Le board, quoi. Non, voilà. Pas le board, pardon, le staff. Son équipe, oui, son staff rapproché.
Son staff proche. Je sais, pour moi, c'est cousu de fil blanc, quoi. Je veux dire, enfin, faut arrêter. Et même si, effectivement, il a trompé sa femme, et même si il a utilisé du fric pour financer 2-3 sorties à hauteur de, je sais pas, 50 000 dollars, c'est du bruit de fond pour ces sociétés. C'est vraiment rien du tout. Même s'il y a un problème d'éthique, en effet, et Jérôme le dit très bien, les anglo-saxons déconnent vraiment pas avec ça. Je veux dire, le PDG de Oracle, il y a quelques semaines, il a eu exactement le même problème. Et Oracle, il est quand même resté en place. Et je pense que, comme tu le dis, Patrick, c'est une erreur stratégique de la part des actionnaires que de gicler ce mec qui, en effet, est relativement visionnaire. Il a racheté Palm pour une bouchée de pain et il y a moyen de faire un truc phénoménal, quoi.
Donc, non, mais d'autant plus qu'en tant que PDG, il a redressé la boîte. La boîte au fond du trou et il l'a complètement redressée. Donc, encore si c'était un incompétent, bon, tu prends l'excuse, tu le vires, machin, mais...
Alors, il y a peut-être une dimension un peu politique. Ils vont dire, putain, Julien, la théorie du complot, il y en a partout, quoi. Il y a peut-être une dimension politique parce que c'est une grosse société, HP, et donc il y a beaucoup d'emplois qui ont été supprimés en 2008-2009. Oui. Et donc ça n'a pas forcément bonne presse auprès, donc, encore les actionnaires, je crois qu'ils en ont un peu rien à foutre, mais auprès de la population américaine, ça pose problème, et donc par extension, auprès du Congrès américain. Et donc, il a peut-être perdu un peu de soutien politique par rapport à ça.
Ouais, moi, je crois que tu vas un peu loin sur... mais bon, peut-être, on ne sait jamais. Ce que j'ai beaucoup entendu, c'est que HP est une boîte très austère, avec des gens qui ont certaines habitudes et une culture d'entreprise particulière. Et lui était un petit peu trop... Il ruait un petit peu trop dans les brancards. Et donc, c'était vraiment la culture d'entreprise qui a pas pris, quoi. Il y avait des gens qui étaient très gênés par son...
Et puis, la faute, donc.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ça.
Bah, alors,
après, c'est de savoir s'il a été piégé ou pas, mais le problème, c'est que effectivement, s'il y avait des gens qui voulaient le mettre dehors, bah là-bas, quand t'as frotté, t'as frotté.
Ah, attends, je crois que tu pourrais donner une autre théorie là qui est intéressante, c'est que cette nana qui est actrice de je sais pas quoi, si ça se trouve, elle a été envoyée par les gens du board qui voulaient le sortir.
C'est évident.
Ah ouais, c'est ça.
Moi, personnellement, je peux pas parler parce que je suis impliqué dans le dossier, mais. Mais à mon avis, il y a un truc là-dessous, hein, c'est sûr.
Je crois que la théorie du complot se s'épaissit encore.
Non, mais sérieusement, si les faits sont... Moi, encore une fois, je ne suis pas expert dans ce dossier-là, mais si les faits sont avérés, bon...
Oui, mais le truc qui est bizarre, c'est que...
Il faut pas.
Non, mais c'est sûr. Et ça, c'était ma première réaction aussi, c'était clair. Mais le truc, c'est que... Si tu vois dans tous les... Enfin, je ne sais pas, c'est comme si tu... À notre niveau, hein, de petits employés modestes, on se dit c'est comme si tu te faisais virer pour avoir récupéré des agrafes de la graffeuse du boulot, tu les as ramenées chez toi, quoi.
C'est
tu vois,
ça
fait pas sérieux. C'est pas possible que ça soit la raison.
Non, mais parce qu'en plus, donc du coup, si je comprends bien, en plus il a trompé sa femme.
Oui, non, mais ça.
Bon, attends, ça arrive à d'autres et ils sont pas virés pour autant.
Bah, oui.
Ah bon, excuse-moi, je savais pas.
Alors là encore, si tu l'adaptes à notre niveau, c'est comme si on avait regardé la secrétaire qui passe.
Non mais sérieusement, je dis pas ça pour. Après chacun c'est à chacun sa morale, mais le problème c'est que avoir une affaire effectivement de tromperie, même dans le sein du même dans le cadre du bar, regarde Clinton.
Oui, mais là c'est carrément.
C'était pas censé nous regarder cette histoire et.
Oui, mais là c'est quelqu'un d'élu. Le coup de HP, HP c'est une société privée, ça les regarde pas les relations entre sa femme et lui, ça ne regarde personne au sein d'HP. Un homme politique c'est différent. C'est quelqu'un
dont
tu.
Ça c'est latin comme réaction. Ça.
Ouais, peut-être. Ouais. Bon, allez, passons à autre chose. En parlant de latinerie, on va parler de grecquerie. Je ne sais pas. Non, ça passe pas bien, en fait. Je voulais parler des Romains et des Grecs, bref. En fait, il y a une histoire qui est plutôt marrante, qui est une utilisation plutôt inventive de Google Earth, encore une, décidément, si on devait toutes les répertorier, qui est, en fait, certains bureaux du fisc ou les autorités compétentes en Grèce se sont mis à utiliser Google Earth pour regarder dans les maisons des gens, enfin dans les propriétés des gens, pour voir qui avait une piscine qu'ils n'avaient pas déclarée. Il faut savoir qu'en Grèce, ils sont un petit peu en déficit maximum et qu'ils sont en train de nous plomber l'Europe. Donc moi, je ne serais pas le premier à les condamner d'avoir fait ça. Donc ils allaient voir sur Google Earth qui avait des piscines, ils référençaient avec les déclarations et ceux qui n'avaient pas déclaré, bah, ils leur passaient un coup de fil en disant « Mister Machin, vous avez une piscine, il faut payer tant pour la piscine que vous avez construite, etc. » C'est, alors, ça s'est fait en Grèce un petit peu, ça a gueulé, donc ils ont arrêté. Et puis, il y a un des États américains qui l'a fait également. Donc, ça a fait un petit peu des émules. En gros, c'est pas un bureau, enfin, c'est pas une organisation énorme. C'est un mec dans le bureau qui se dit « Ah, mon boulot, c'est de vérifier ce genre de fraude. Bah, je vais utiliser Google Earth pour faire mon travail. » Et en plus, c'est des informations publiques, quoi. Je veux dire, si tu passes dans la rue, que tu regardes un petit peu au-dessus de la barrière et que tu vois la piscine, bah, c'est la même chose. Tu peux aller dire au mec, monsieur, vous n'avez pas déclaré votre piscine. Donc, c'est marrant parce que, à la fois, on se sent insurgé contre cette invasion de la vie privée et en même temps, c'est quelque chose de plus ou moins normal. Enfin, tu peux le voir normalement. Enfin, je sais pas, même pas quoi en penser, quoi. Sauf pour les Grecs et qui nous remboursent un peu notre argent. Ça commence à bien faire.
Moi, je sais quoi en penser. Hein. Je vais pas me faire des copains, mais si je bossais au fisc, le premier truc que j'utiliserais, ça serait Google Earth. Ça, c'est sûr.
Ça, c'est le mec qui a pas de piscine.
On n'arrête pas de leur reprocher de pas utiliser des outils performants pour une fois qu'ils le font.
Alors, le problème, c'est que c'est aux USA, c'est pas en France, quoi.
Tu vois, ouais, bah écoute, peut-être que ça va venir. Hein, on est un peu en retard, mais peut-être que ça va venir ici aussi. Hein. Ouais. Mais.
Je veux pas faire les mecs qui déclarent pas leur piscine, ça me gêne pas qu'ils se fassent gauler.
Ouais, d'accord, bah écoute, pourquoi pas, Julien ?
Moi j'ai une expérience un peu différente, enfin pas en ce qui concerne les piscines, mais pour les plaques d'immatriculation. Enfin, j'ai eu un deal aujourd'hui avec la police nationale. et finalement, s'ils utilisaient un peu plus ces outils informatiques, ça m'arrangerait un tout petit peu, tu vois. Parce que finalement, ils arrivent à confondre une Renault avec une BMW, donc c'est quand même un petit peu embêtant. Et c'est du délire. Je passe les détails, mais ça m'a pris la gueule aujourd'hui d'une force. Finalement, si en effet ils pouvaient utiliser un petit peu plus les nouvelles techno, bah, ça me ferait bien plaisir. Du coup, je suis plutôt pour ce type d'usage, finalement, cette bonne guerre, j'ai envie de dire.
D'accord, écoute, c'est marrant, j'aurais pas du tout pensé qu'on aurait cette réaction. Moi, je me suis dit, policier qui nous observe de partout, même du ciel.
C'est le danger de prendre des petits nouveaux sans se renseigner sur leur.
Ah ouais, fais attention là.
Moi, je voulais du scandale, en fait, il me dit non, c'est cool. Ok, d'accord. Bah tiens, demandons à la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est scandale, invasion vie privée, machin, ou alors non, c'est cool, utiliser Google Earth pour regarder dans ma salle de bain.
On suit les noms et on se met.
Donc scandale ou c'est cool ? Dites-nous ce que vous en pensez. C'est vrai que pourquoi pas, hein, mais après il y a forcément des limites, quoi, mais...
Non, ouais, en effet, il y a des problèmes un petit peu juridiques. En effet, c'est l'intrusion dans la vie privée. Bon, bah, ça, mais où est-ce que tu passes le curseur, en fait ?
Ouais, c'est ça. C'est vrai.
C'est aussi des histoires de mentalité. Je parlais des amis justement de ça cet après-midi. Ils me racontaient effectivement en Allemagne tous les problèmes qu'il y a eu au début là, avec les problèmes de plaques, qu'on se retrouve, on a une photo de nous dans la rue. Il y a certains pays comme l'Allemagne qui n'arrêtent pas de faire des procès à Google pour ces trucs-là, et d'autres pays qui s'en foutent complètement. c'est beaucoup une question de mentalité aussi quand même, hein, de rapport à l'image, ouais, de rapport c'est sûr. À... C'est des choses qui sont énormément... c'est quand même tout nouveau tout ça.
C'est sûr qu'on est en train de... Ouais, pardon, vas-y, vas-y.
Non, non, mais j'ai fini, vas-y.
Bah, moi, c'est marrant parce que je ne sais plus de quoi j'entendais parler il y a quelques heures à peine, et je me disais, en fait, cette question de redéfinition de la vie privée, j'ai l'impression qu'on est en train de... Enfin, jusqu'à maintenant, il y avait la vie publique, la vie privée, et en fait, ce dont on ne se rendait pas compte, c'est que dans cette vie privée, dans cette intimité, il y avait une partie... disons vie privée et une partie vie secrète, genre les trucs que tu veux pas du tout, dont tu, qui sont vraiment à toi quoi. Et c'est cette partie vie privée qui était, qui est pas ultra secrète mais qu'on n'a pas l'habitude de déballer, qui est en train de devenir plus ou moins publique, mais il y a encore une limite de la vie secrète dont on veut pas du tout parler, et tout ça est en train d'être défini, et le curseur est en train de reculer vachement vers la vie secrète, et effectivement ça va prendre quelques années pour définir complètement quoi.
Alors, en même temps on se prostitue un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un petit peu exagéré.
On est tous devant la caméra,
donc voilà, ça ne pose pas forcément de gros problèmes. Mmh. Maintenant, en effet, il faut réussir à avoir son jardin secret, sa partie secrète, mais j'ai envie de dire, si elle est si secrète que ça, bah, tu creuses un endroit dans ta cave et puis tu enterres tout façon serial killer, quoi.
Ouais, ça veut dire que si tu veux cacher quelque chose, c'est que tu as quelque chose à cacher. Ouais, c'est sûr que c'est... Non, mais c'est difficile à définir, mais bon. Oui, vas-y, Jérôme.
Non, je trouve que c'est un sujet vraiment intéressant, parce que ça fait partie des sujets qui reviennent le plus souvent, en fait, quand on discute même entre les générations, ou même entre ceux qui utilisent beaucoup Internet ou pas du tout. Finalement, c'est toujours la première question qui revient. Si tu parles de Facebook à quelqu'un qui s'en sert pas, il va dire tout de suite, oh là là, non, mais ils prennent mes photos pour les mettre à l'autre bout du monde, ou... Ouais. C'est quand même éternellement le sujet qui revient partout, quoi. Sur Google, c'est pareil. Moi, je sais qu'au bureau, tout ça, j'ai essayé de promouvoir certains services dont on pourrait se servir. C'est systématiquement la peur de l'utilisation, de, en fait, tout ça, c'est fait pour nous prendre nos données. Il y a une culture de... Non, mais c'est embêtant. Mais, ouais, encore une fois, tout ça, c'est rien, 10 ans, je veux dire, c'est tout neuf, tout ça. Donc, dans les cultures, que ce soit au boulot, que ce soit dans la vie privée, c'est une vraie... Bon, c'est cucu de le dire, mais c'est une vraie révolution, quoi. Ouais. Ça change vraiment les comportements.
T'as raison, personne n'a la bonne réponse et il va falloir attendre encore quelques années pour que le curseur et la boussole se ressentent un peu.
Il y a un truc important aussi, je pense, c'est là. Moi, aujourd'hui, je suis effectivement assez un peu plus à l'aise avec ça, mais je me demande comment. Enfin, moi, j'ai 42 ans, donc je suis plutôt jeune.
Oh, le vioc.
Non, mais je veux dire, c'est vrai que tous ces trucs-là, moi, j'adore ça, hein, c'est pas un secret, mais comment j'ai arrêté à 14, 15 ans, c'est vrai, je vois des choses sur les jeunes qui sont peut-être un peu effectivement plus délicates.
Pas faux.
Nous, quand t'es un peu plus assis dans la vie, que t'es un peu, moi, je me sens pas avoir des trucs à cacher aujourd'hui, je me sens assez, je me sens assez bien et tout. Bon, je sais pas, l'adolescence, machin, c'est quand même vachement plus délicat, quoi.
Nous, comme le disait Julien, nous, on est hyper public déjà à la base, donc on maîtrise un petit peu ça, mais c'est sûr que si quelqu'un l'est moins, ça peut être inquiétant et c'est compréhensible. Juste pour dire pour la chatroom, la plupart des gens ont l'air de trouver que bon, ça pose pas trop de problèmes si le gouvernement utilise Google Earth pour regarder chez eux dans leur piscine. D'ailleurs, venez pas vous plaindre quand ça arrivera pour de vrai, hein, maintenant vous l'avez dit. Et Neuroleptique dit « Non, c'est un scandale, Julien en Renault, scandaleux ».
Voilà, je dis ça comme ça. Ouais, si je pouvais rouler en BM ou en Audi ou pourquoi pas en Tesla, je le ferais.
Pourquoi pas. Un service dont Jérôme a certainement vanté les louanges, chanté les louanges à ses collaborateurs et dont il se retrouvait bien ridicule aujourd'hui, c'est Google Wave, puisque Google Wave nous quitte. Bon, tous les auditeurs du Rendez-vous Tech le savent, on a parlé de Wave pendant des mois et des mois et on disait ouais, c'est la révolution. Je suis sûr que si certains d'entre vous ont écoutent l'émission depuis genre 2 ou 3 mois, ils savent même pas ce que c'est Google Wave. C'est sorti l'année dernière, un service super révolutionnaire soi-disant qui allait remplacer l'email, etc. Certains y croyaient, certains moins. Moi, j'y voyais un potentiel intéressant. Certains disaient mais ça sert à quoi, on sait pas. Et ben visiblement, ça sert à rien parce que Google arrête le développement, ferme la maison, ils arrêtent tout. Donc voilà, Google Wave disparaît et le monde de la technologie est un peu triste quand même.
Ah bah moi je suis hyper hyper triste, je suis en deuil.
Ah, c'est toi qui utilisais Google Wave.
Ouais,
en fait.
C'est moi, trouvé. C'était moi à fond.
C'est vrai,
en plus,
mais alors...
C'est terrible parce que c'était le premier service que j'avais enfin réussi à vendre au bureau. C'est que,
oh bon, là.
Et là, dommage.
Et pour, la première fois, là, j'ai réussi à lancer un petit truc. Oh là là, le lendemain, j'apprends que ça ferme. Donc,
Littéralement, le lendemain ou genre quelques semaines plus tard?
Ah non, vraiment, deux, trois jours après, quoi. C'était vraiment. Ah non, j'étais fou. Mais parce qu'en plus, moi, je fais partie, effectivement, je devais être les deux ou trois en France qui aimaient bien ça. Mais effectivement, ça sert
moi,
à rien.
Moi, j'aimais bien aussi.
Quand t'es tout seul dans la vague, bah, tu te mouilles tout seul, tu t'ennuies. Mais non, enfin, moi, pour être très très clair et essayer de faire vite, je trouvais que c'était génial pour le boulot.
Ouais.
C'était une super opportunité pour le boulot. Bon, bah, moi, je suis démocratique, les gens n'ont pas adhéré, qu'est-ce que tu veux. 99%, 95% des gens, moi j'ai autour de moi même les gens bien branchés dans ce genre de pour tester tous ces nouveaux outils. Manifestement ça plaît pas, donc c'est vraiment dommage. Moi je le regrette, mais qu'est-ce que tu veux.
C'est vrai que
faut être démocrate.
L'interface était un peu compliquée, c'était pas facile à prendre en main, c'était des concepts un petit peu trop. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, même si au final j'utilisais pas énormément, j'ai l'impression que Wave était un petit peu en avance sur son temps quand même. Il risque d'y avoir des outils vaguement similaires qui arriveront d'ici, je sais pas, 4-5 ans et qui marcheront. Et à ce moment-là, on se dira, ah ouais, Google Wave, c'était un petit peu ça, mais c'était trop en avance. Parce que c'est sûr que moi, enfin personnellement, au début, je l'utilisais un petit peu, j'essayais de chercher des utilisations, des utilité, etc. Mais aujourd'hui, à part Mr. Jérôme Kainborg, The Old Cuban pour les No Watchers, qui s'y accroche, mais dur comme fer, qui adore Wave, il ne jure que par ça. Enfin, et donc, il nous force tous à No Watch à utiliser Wave pour ces trois petits trucs débiles.
Sous la torture.
Ah mais complètement, c'est tu sais, il nous dit non, c'est pas de la torture physique, mais c'est de la torture émotionnelle, tu sais, il nous fait ah ouais, mais moi si c'est pas sous Wave, je reçois trop de mails et je m'en sors plus.
C'est bien le
ça dure trop
plus,
longtemps.
En fait.
Ça me prend trop longtemps pour gérer tout ça. Enfin bon. Ouais, donc à part ça, enfin moi je m'en sers pas du tout quoi. Bon, donc il y a ah mais c'est peut-être un truc de Jérôme en fait, c'est Jérôme Kainborg.
Peut-être.
JC Frog, ça doit être ça. Julien, toi tu t'en servais ou pas?
On s'en est quand même pas mal servi pour Geeking, pour préparer les podcasts.
C'est ce que vous disiez dans le dernier, ouais.
Ouais, c'était un bon outil, l'idée est quand même assez intéressante, mais maintenant il y a des problèmes d'ergonomie. L'édition, c'était super chiant. Pour rechercher une information dans le Wave, alors courage quoi. Ouais. Donc voilà, des gros soucis quand même d'ergonomie. L'idée est relativement intéressante. Ça me faisait un peu penser à pas de la démo technique de chercheur, mais presque, tu vois.
Ouais.
C'était un peu rugueux parfois.
Et, c'est marrant.
Ouais,
en fait, c'est marrant parce que moi, je sais pas, je vais être câblé en Wave parce que tout le monde dit que c'est compliqué. Moi, je trouvais ça plutôt super simple, quoi.
On bah, avait les discussions.
Le principe, moi, vraiment, le principe que je trouvais super, c'était le principe de la discussion. C'est-à-dire d'avoir un truc localisé, une donnée centralisée, et puis t'ajoutes des intervenants, c'est royal.
Ah ouais,
quoi.
Mais quand ta discussion commence à faire 150 bips.
Ouais. Ça manquait d'avoir. Ouais, mais c'est normal parce que justement, au début, en plus, tout le monde a testé, on en met tout le monde dans la wave. Ça faisait des waves qui n'en finissaient pas. Et comme en plus, l'outil était un peu poussiche puisqu'il était tout jeune, c'est sûr que bah, ça a dégoûté un peu tout le monde. Et puis, c'est sûr qu'après, je pense qu'il aurait dû avoir un peu des cultures du style savoir faire le ménage dans la wave. Ça, c'est un truc. Parce qu'en fait, il y a des petits bouts de discussion qui sont censés.
Personne ne le fait jamais, oui.
Voilà.
Ouais,
mais
c'est
bon,
vrai.
Bon. Non, mais c'est comme ils disent, hein, on va célébrer la fin de. Il paraît que le patron de Google, il dit que ça se célèbre à la fin de Wave.
Ouais, enfin bon, il fait le beau, hein, mais en même temps, c'est pas très grave pour lui. Hein, c'est pas le cœur de métier de Google. Mais le problème d'un petit peu de Wave, bon, il y a l'aspect partage d'informations, discussion. Nous, on trouve vraiment l'équivalent, enfin, en ce qui concerne la préparation du podcast, dans les docs, hein, tout simplement, les Google Docs. Ça marche très très bien. C'est.
Ouais.
Interactif, ouais. Avec plusieurs utilisateurs, tu peux même chatter en direct, donc ça va bien, quoi. Donc, il n'y a pas de gros problème, et tu vois, il y a peut-être un problème de positionnement, finalement, de Wave par rapport aux autres outils existants sur le marché.
Ouais, c'est sûr.
J'ai cassé
et puis, en plus, là, il fallait se mettre un peu à poil, il fallait montrer comment on tape à l'ordinateur.
Ouais, ça, c'est un petit peu... Parce qu'on voyait comment on tapait en direct.
Ouais, ça gênait pas mal le monde, ça.
Ouais, c'est pas faux, ouais. Et d'ailleurs, ils avaient ajouté à la fin un mode où on ne pouvait pas voir en direct. Il fallait appuyer sur une touche pour afficher la chose. Bref, bon, bah, Google Wave est mort et nous sommes tous
même
un petit peu attristés. Ouais, bah, écoute,
une chanson post-mortem, ça peut être sympa.
Bah ouais, ouais, tu fais ta petite eulogy à Wave.
Je voulais faire un tuto, même, j'ai même pas le temps de faire un tuto.
Ah ouais, c'est râpé là pour le tuto.
Ah oui, là, ça sera un petit peu trop tard, ouais.
Ouais.
Bon, dernière news d'aujourd'hui, je voulais aussi un petit peu parler de DEFCON et de Black Hat et de toutes ces conférences de pirates où ils nous montrent comment pirater votre téléphone portable et vous voler toutes vos données. Je crois qu'on va pas avoir le temps. Pardon ?
Je sors.
Non, mais c'est marrant ces trucs. C'est quand tu vas à ces conférences. Bon, moi j'y suis jamais allé. Alors, quand tu écoutes ce qu'ils disent à ces conférences, tu te dis que tu peux même plus. C'est même pas que tu peux pas sortir de chez toi. C'est que même chez toi, on peut te voler toutes tes données pendant que tu dors sans que tu t'en aperçoives. Quoi. Si tu allumes ton téléphone, ça y est, toutes tes données sont déjà sur Internet. Donc, vaut mieux pas regarder. Tu dors plus tranquille. Non, mais ce dont je voulais parler, c'est un truc intéressant, c'est le projet peut-être que dont on a entendu parler en rumeur du PSP Phone, donc d'un téléphone en fait de Sony Ericsson qui fonctionnerait sous Android, qui serait également une console de jeu portable, donc une PSP, une PlayStation portable téléphone. Concurrence à l'iPhone, vrai projet, coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh là. Alors moi je joue plus depuis 1972, hein, donc
d'accord.
J'étais pas né.
non mais je sais, non, ouais, là, pareil, je connais pas trop.
Mais t'as un iPhone au moins?
Je au suis moins, très...
oh, espèce de fanboy, va.
Bah ouais, non, je suis très, j'ai iPhone et iPad et iMac, mais je suis pas trop game, c'est mes enfants quoi.
Mais tu sais quoi, je crois que là tu as tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant, qui est le fait que la raison pour laquelle les jeux fonctionnent sur l'iPhone ou Android, hein, je veux dire, il y a pas de raison que ça marche pas sur Android aussi, mais la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que les gens n'y pensent pas vraiment. Je veux dire, ils vont pas forcément aller acheter un truc pour se dire je veux jouer avec mon téléphone. Ils disent j'ai mon téléphone, s'il y a des jeux dessus, c'est bien. Donc je suis pas sûr que le téléphone PSP ça soit vraiment un argument de vente super fort. En même temps, tu te dis, si tu veux acheter une PSP, plutôt que d'avoir... Parce que les gens ne vont pas avoir un téléphone portable sur lequel ils jouent et une console portable en plus sur eux. Donc, peut-être que mélanger les deux est cohérent. Ouais. Donc, il est évident qu'il ne va pas se vendre autant de PSP Phone que d'iPhone, à mon avis. Hein. Mais c'est une direction dans laquelle ils doivent aller. C'est presque... Ouais, ouais.
C'est ce qu'on appelle la convergence numérique, je pense, c'est le terme consacré. Mmh. L'idée, c'est donc de rassembler plusieurs usages dans un même appareil. Mais moi, je pense qu'au contraire, il y a un vrai potentiel. Je regardais une démo qu'avait fait un Gus avec un Dell Strike. Enfin, c'est le Dell 5. Strike, pardon, excuse-moi, je suis pas fluently l'anglais.
Tu sais, quand j'écoute, le seul truc qui me hérisse quand j'écoute tous les podcasts de No Watch, hein, de partout en français, et je sais, vous allez me traiter de snob, de machin d'anglais, c'est les prononciations des termes anglais par les français, quoi. Ça me hérisse, quoi, le Dell Strike. Tu l'entends à toutes les sauces, quoi. C'est le Dell Strike, le Dell Streak, le Dell machin. PowerPoint, ça devient PowerPoint, ça c'est Mathieu qui dit ça, enfin, ah, ça me... Et d'ailleurs, Julien, si tu Vas-y. Peux, je t'en supplie, ça me fait exploser les oreilles à chaque fois, dis à Cédric que ce n'est pas le Zune, c'est le Zune, il n'y a pas de I, c'est Zune, pas okay. Zune, je ne sais pas d'où il sort son Zune.
Ouais. Je sais pas, c'est plus stylé, tu vois, ça fait courant d'air, ziou,
tu vois,
un truc qui bouge. Bon.
Oh, ça m'a fait du bien là, je me suis
tu t'es lâché.
Mon... Pardon, continue.
J'en étais où?
Le Dell Streak.
Donc le Dell Strip, il a fait une démo avec un équipement Logitech, c'est une sorte de clavier Bluetooth. Je l'ai peut-être mal prononcé là aussi, tu m'en voudras pas. Je vais flipper chaque fois que je prononce un mot à consonance anglophone.
Bluetooth, ça fait.
Bon, en gros, le Gus rajoute un clavier et a un usage hyper intéressant avec un grand écran. Et donc, je me disais là, bon, sur l'iPhone, tu peux utiliser des contrôles qui sont effectivement sur l'écran, mais ça remplacera jamais un vrai trackpad. Et là, je pense qu'il y a un réel potentiel. Moi, en tant que gamer, j'ai envie de dire, je joue assez peu sur l'iPhone parce que, je sais pas, je retrouve pas les bonnes sensations, pas de bon contrôle, même si c'est parfois intéressant, il y a un truc qui manque. Là, je pense qu'il y a un vrai potentiel et j'ai envie de dire que Google change un petit peu son fusil d'épaule sur différents points en ce qui concerne Android. Sur un premier point, la question de, comment dire, des applications, la vérification des achats d'applications sur l'App Store, enfin entre guillemets, c'est un autre Android Store, a changé. Et je pense qu'ils veulent également concurrencer l'iPhone
et les jeux. Ouais. Voilà. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Et à vrai dire, ce que tu dis est très cohérent, et j'irai même plus loin. Non seulement les contrôles sur l'iPhone sont pas hyper pratiques, mais je dirais même les graphismes, parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais, l'iPhone c'est de graphisme, presque une console de jeu, machin, enfin. Calmons-nous, quoi. C'est trois polygones pourris, pas texturés, qui se battent en duel. Enfin, c'est clairement pas des beaux graphismes. C'est bien pour un téléphone.
Mais... C'est bien pour du jeu en 2D. Ça me rappelle les consoles qu'on avait quand on était un peu gamin. C'est un petit peu mieux, mais sa concurrence, une DS, pas forcément DS dernière génération, mais sur la partie 2D, c'est quand même magnifique.
Sur la 2D, complètement. La 2D, c'est très très bien. Mais sur la 3D, il y a plein de. Enfin, je lis des tests de certains jeux où les gens disent ah, 3D magnifique, super machin. Enfin, non, quoi. Il y a.
C'est de la 3D de la PS1 un peu pourrave, quoi.
Voilà, c'est ça.
Donc. Alors, moi, je me rends compte, rien à foutre, vous allez me dire. Hein. C'est pas des téléphones, mais sur l'iPad, je me rends compte que c'est justement. Alors, effectivement, je joue plus trop. Mais je me rends compte que les choses que j'achète, c'est pas mal des jeux, en fait. Je me remets... c'est un service auquel je m'attendais pas tellement... je m'attendais pas tellement à me servir de ça. Et en fait, je dépense quelques petits euros sur les jeux qui sont quand même assez sympas sur cette petite machine. Mais bon, c'est pas un téléphone, pardon, c'est un peu hors sujet.
Mais... Ouais, non, mais pareil, c'est la même chose. Tactile.
Et c'est bien marketé aussi par Apple. Et il faut soit Google, soit Sony marketent bien le produit. Hein. Il n'y a pas de raison.
Mais c'est pas des jeux... Ouais, c'est moi les jeux dont je parle, c'est effectivement pas des jeux qui sollicitent des trucs 3D de la mort, quoi. C'est plutôt des jeux, tu vois, les.
Il y a un marché pour ça. Il y a un marché pour ça. Tu regardes Fat Princess, c'est pas très très beau visuellement, c'est assez simple,
c'est mignon. C'est fou, quoi.
Oui, c'est mignon, mais ça demande pas des ressources phénoménales d'un point de vue graphisme.
C'est
donc sûr. Ça veut dire qu'il y a également un marché pour ça et ça cartonne. C'est un jeu qui cartonne. Donc,
Moi, je dirais que au final, en conclusion, effectivement, un PSP Phone, c'est cohérent, mais ça va plutôt avoir un marché de la taille de celui de la PSP plutôt que celui des téléphones, quoi. Je pense pas que les gens vont se mettre à acheter. Enfin, ça dépendra du prix des jeux, etc. Et ils disent aussi, c'est un truc sous Android. Est-ce que ça veut dire que les jeux vont devoir être programmés spécifiquement pour le système Android, ou est-ce qu'ils vont prendre les jeux PSP?
C'est une bonne question. Ça me fait penser à. Alors, c'est vachement vieux, hein. Sur des PC qui avaient des cartouches Mega Drive. C'est Amstrad qui faisait ça. Et tu switchais de l'un à l'autre. Hein. Donc, t'avais un vrai PC et t'avais une vraie console. Mais là, ça veut dire, je prends un coup de vieux, là.
C'est vrai, ça me dit quelque chose aussi.
C'est fait.
J'avais un Amstrad aussi, il y a très longtemps.
Ce qui serait très intéressant, c'est effectivement qu'on ait un portable qui soit capable de jouer des jeux PSP. Mais de toute manière, la dernière PSP, tous les jeux sont dématérialisés.
Donc, ça veut dire sur la PSP Go, oui.
Go, tout à fait. Ça veut dire que potentiellement. Et c'est tout petit, hein, c'est de la taille d'un téléphone. Ouais. Donc, tu lui adjoins des fonctionnalités téléphoniques. Roule ma poule, quoi.
Ouais, donc tu passes moment, t'es sur le téléphone, tu passes de l'autre côté. En fait, t'as deux systèmes qui coexistent.
Tu peux avoir deux systèmes qui coexistent, ou alors un seul système unifié, mais vu qu'on va être sur l'Android 3.0, on sait pas vraiment quelles seront ses possibilités, quoi.
T'as raison. Enfin, bon, bah écoutez, on vous tiendra au courant si on a plus d'informations. Normalement, ça devrait être annoncé bientôt. On n'a pas non plus la date exacte parce que c'est des rumeurs, mais bon, ça devrait arriver dans pas trop longtemps, donc on vous tiendra au courant. Et on passe aux rumeurs à la con, et j'en ai une seule aujourd'hui, ça va aller vite. Ma rumeur à la con, c'est même pas une rumeur, c'est une petite news que j'ai trouvée marrante. C'était la news des jailbreaks dans les Apple Store. Pour ceux qui suivent un petit peu l'émission Upload, vous savez que le jailbreak était plus facile que jamais il y a une semaine. Il suffisait d'aller sur un site à partir du navigateur de votre iPhone, hein, bien sûr, on parle d'iPhone, et vous alliez sur un site, il vous disait voulez-vous jailbreaker, vous appuyez, vous faisiez glisser le petit machin, et hop, ça jailbreakait. Alors il y a des petits malins qui sont allés dans les Apple Store et qui sont mis à jailbreaker tous les téléphones qui étaient en démonstration. Et je trouve que c'est, je sais pas pourquoi ça me fait marrer quoi. C'est
bah
super
ouais,
drôle.
Ouais. C'est une pitrerie quoi, mais c'est super sympa quoi. En effet, alors c'est plus possible ça quand tu l'as mis à jour. Hein, en 4.02, ils ont verrouillé la petite faille Safari. Les enfoirés.
Oui, et d'ailleurs, si vous êtes sous iPhone, pensez à mettre à jour votre téléphone parce que cette faille est un petit peu dangereuse. Oui. Donc oui, bon, c'est plus possible, mais moi, ça me faisait bien rire et c'était, je sais pas pourquoi. C'est marrant,
oui, c'est presque de l'enfantillage, mais c'est bien marrant de à la barbe au nez de des employés d'Apple de jailbreaker, pourquoi pas d'installer son Cydia et puis de bonnes grosses applis bien jailbreakées, genre qui vont taper sur les ressources de la machine ou un truc assez sympa, non, quoi, ouais. Tu vois, ça peut être pas mal, en effet.
Tu es adepte du jailbreak, toi, Jérôme, ou pas du tout?
Ah non, moi je suis quelqu'un d'une très haute moralité. Moi je suis vraiment d'une exigence morale sans égale. Hein. Non. Non, mais honnêtement, non.
D'accord. Non, mais moi non plus.
J'ai mon petit fournisseur. Je fais mes updates avec Monsieur Orange et tout. Ouais, à la loyale.
D'accord.
Non, mais j'ai pas vu tellement
pareil,
de.
Ouais. Non, moi non plus, je l'ai jailbreaké hein, deux, trois fois au cours des trois dernières années. J'ai jamais vu. Bon.
Après, tout dépend de l'usage, en effet. Ouais.
Ah, c'est sûr que là, je vais avoir des tonnes de personnes qui vont me courir après en me disant mais t'es fou, le jailbreak, c'est super bien et tout, je suis sûr.
Mangez-en.
Voilà.
Non, mais. Ouais. J'avais vu à une époque, le seul moment où j'étais un peu tenté, c'était pour une histoire justement de. Bah, c'était pas. Je sais plus quelle appli, là. Il y avait une appli qui permettait de faire du streaming vidéo à l'époque où on pouvait pas encore le faire.
Ouais.
Sur l'Apple Store, et il y avait une appli, je sais pas, Quick, un truc comme ça.
Bon, oui, enfin, je Kik, sais plus. Ouais. Kik,
ouais. Kik. Ouais. Oui, pas Quick.
C'est gros Quick, quoi. Bon, ok. Et eh ben, voilà. Écoutez, on va passer à la conclusion avec notre segment habituel, le segment de Guillaume, qui nous propose sa statosphère de l'épisode.
Bonjour à tous. Les jeunes générations savent-elles aujourd'hui ce qu'est un Minitel ? Mais si, vous savez, ce gros boîtier distribué aux Français à partir de 1982 et dont la démocratisation se justifiait par l'efficacité de son service de renseignement, le fameux 3611. En 1985, la France comptait 1 million de Minitel. En 2000, elle en comptait 9 millions, utilisés par la moitié de la population. Puis les États-Unis ne tardaient pas, en 1994, à annoncer le coup d'envoi de l'Internet dans le monde. Mais qu'est devenu notre fleuron technologique national des années 80 ? Après maintes soubresauts, le Minitel survit, agonisant. Aujourd'hui, 2 millions de Français continuent de l'utiliser, la moitié depuis un ordinateur. Le dinosaure fait toujours recette. Il y a dans poche encore chaque année 1 million d'euros avec son 3617 à nu. Le Minitel compte encore 2400 services sur son réseau, contre 25 000 il y a 20 ans. La mort du terminal français est finalement annoncée pour septembre 2011, date à laquelle France Télécom fermera définitivement les tuyaux l'alimentant. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Et Guillaume, il a fait un truc spécial pour toi, Jérôme. Je ne sais pas comment il a su que tu venais, mais il s'est dit, bon, là, il y a un vioc, il faut parler du Minitel.
C'est gentil, ça me touche beaucoup.
2 millions de personnes, quand même, qui utilisent encore le Minitel. Mais c'est hallucinant, quoi.
C'est un fake, ça.
Mais c'est de la folie. Non, Guillaume, il est très bien renseigné. Et 2 millions, mais j'en reviens. Enfin, en même temps, les questions où, genre, la Poste qui utilise dont on parlait la dernière fois, des gens qui utilisent par leur ordinateur des émulateurs Minitel pour des services de trucs.
Ouais, c'est clair.
Ouais, c'est un peu de la folie.
C'est un peu de la folie, ouais.
Et donc, il nous dit, en septembre 2011, Ça va être la fin du Minitel et ça va être un moment sans déconner. Je pense que le web entier, enfin en France en tout cas, va s'embraser. On va voir des hommages au Minitel, des vidéos, des remixes, des chansons.
Des chansons, bah alors.
C'est sûr, ouais. Alors, ouais, tu veux nous faire une petite impro là, non ?
Exactement.
Oh, j'en ai fait une sur Minitel d'ailleurs.
C'est vrai ? Ah, écoute, il faudra qu'on aille voir ça. Ah là là. Bon, et on rigole, on se marre, on se moque du Minitel, mais à l'époque, c'était quand même un truc complètement révolutionnaire, quoi. Le Minitel, à la fin des années 80, début 90, c'était quand même énorme, quoi. Ça donnait la télématique en accès hyper simple. C'était le Minitel, c'était la première version d'une sorte d'iPhone, quoi. C'était une machine super simple. Tu la branchais, ça marchait immédiatement. Tu savais ce qu'il fallait faire, et voilà.
Ouais, alors moi, les seules fois où je m'en servais, c'était pour m'inscrire, je crois, à l'UIT ou je sais plus, un truc comme ça, ou peut-être pour le bac. Et putain, comment j'avais galéré, parce que évidemment, il fallait placer le curseur au bon endroit. Si tu commençais à taper au mauvais endroit, c'était râpé. Enfin, c'était apocalyptique pour moi. Tu parles d'iPhone, mais l'iPhone, là, au moins, tu vois, c'est user-friendly, quoi. Il n'y a pas de problème, tu y vas, ça marche, quoi. Ça te donnait d'énormes possibilités, notamment de taper 3615 Vula, si je me souviens bien, et de griller la facture de tes téléphoniques de tes parents.
Ah, tu vois que tu t'en servais pas que pour aller t'inscrire à l'IUT.
J'essayais également 3615 Beja, mais ça n'existait pas à l'époque.
Si c'était seulement pour les initiés, en fait. Il y avait un code spécial. Et toi, Jérôme, tu gardes des souvenirs émus du Minitel ou...
Non.
Non plus.
C'est vrai que c'était. On se disait, c'est sûrement le chemin vers quelque chose, mais on attend la prochaine étape.
Ouais, non, mais c'est vrai.
C'est vrai que c'était balèze, ça rendait des services, mais pour le côté sexy du truc.
C'est sûr que c'était pas hyper sexy. Mais moi, je me souviens. Enfin, c'était pas hyper sexy, ça dépendait du service. Mais je me souviens quand même que. Enfin, tout le monde se moque du Minitel. Moi, j'aimerais quand même lui redonner un petit peu de son lustre. C'était quand même un projet hyper innovant et hyper intéressant à l'époque.
Oui.
Et il avait des qualités. Voilà.
C'est vrai, disons-le haut et fort, disons-le.
Et le site fantastique, je vais en parler en deux secondes, c'est un truc qui s'appelle Youngmi Naomi, qui est un blog qui a été créé par The Frank, qui est une personnalité du net assez connue, dont j'ai parlé sur Facebook, Twitter, tout ça. Je trouve ça super poétique et super joli. Il a eu une idée toute simple, c'est le fait de prendre des photos... un petit peu ancienne, et de dire aux gens, vous prenez vos vieilles photos et vous recréez la pose et l'expression de la photo aujourd'hui. Et ça donne des résultats super intéressants. C'est vraiment des trucs super beaux, super poétiques. Et moi, j'adore et je vous recommande vraiment d'aller y jeter un coup d'œil. Vous ne pourrez pas ne pas aimer. Est-ce que vous connaissez Youngmi Naomi ?
Ouais, moi, je suis allé voir quand tu l'as mis sur le doc. Et c'est vachement frais, en fait, comme idée. Et t'as des trucs génialissimes. Alors celui qui me fait hurler de rire, c'est le gamin en fait qui s'endort à moitié dans le vide, à moitié sur le canapé, et le mec reproduit exactement la même scène, mais dans un salon, un peu de bureau, on sait pas trop. Et je trouve ça génialissime. Ce qui m'a fait également délirer, c'est les personnes qui reprennent la même pose, mais également les mêmes costumes. C'est-à-dire qu'ils se refont les costumes à la taille adulte, évidemment, pour reprendre exactement la même pose. Je trouve ça génialissime, quoi.
Ça m'a bien plu aussi. Ouais, sympa.
Ouais, moi, il y en avait une qui m'avait vraiment touché. C'était un couple qui avait été pris en photo, c'était peut-être dans les années 50 ou 60, le jour de leur mariage, front contre front, en fait, en train de se regarder les yeux dans les yeux, une photo un petit peu volée comme ça. Et qui s'était donc repris en photo peut-être, je sais pas, 40 ans plus tard, ils étaient, ou même plus quoi, 50 ans plus tard, ils étaient assez âgés, aujourd'hui, dans la même position, et les deux photos mises à côté l'une de l'autre, il y avait quelque chose de vraiment fort quoi, c'était émouvant. Voilà. Donc c'est le site fantastique, c'est sur thefrank.com, Z-E-Frank, frank.com/youngminaomi / blog ou sans le / blog. On vous mettra les liens sur les notes de l'émission, dans les notes de l'émission que vous retrouvez sur lrdv.fr. Vous retrouverez là-bas aussi donc les articles de notre émission, tous les différents épisodes et des informations pour vous joindre à nous en live, comme l'a fait la chatroom. Vous êtes là nombreux et on vous en remercie tous. On vous fait des bises à tous ceux qui étaient là.
Oh oui.
Et avant... avant de vous quitter tous, puisqu'on arrive déjà, vous l'avez compris, à la fin de l'émission, je veux absolument donner quelques minutes à Jérôme et Julien pour nous dire si les gens qui nous écoutent veulent en savoir un petit peu plus sur vous, où doivent-ils aller, que doivent-ils faire sur l'internet du cybernaute. Jérôme, vas-y en premier.
Ah bah moi, si on tape JC Frog dans Google, le gentil Google, normalement on trouve à peu près l'essentiel, mais j'ai un blog et puis un canal YouTube pour l'essentiel, mais Twitter beaucoup aussi. Donc,
voilà, et donc JC Frog, JC comme JC, et Frog c'est parce que c'est français, c'est ça ou...
Voilà.
D'accord.
Ça vient, la grenouille, bon, c'est compliqué, mais enfin c'est un lien avec la grenouille de Love Isole, la chanson Love Isole de...
Ah,
tu sais, ce vieux dessin animé, là, avec une...
Oui, d'accord.
C'est un des premiers clips de mon temps, voyez-vous.
J'ai un coup de fil. Attendez, deux secondes, de je reviens.
Encore ? Mais c'est pas possible. Bon, bah alors j'enchaîne. Alors moi, c'est relativement facile de me trouver sur No Watch, déjà, sur les podcasts Geek Inc. Et puis, bah, de temps en temps, sur le blog également de Geek Inc, geekinc.fr. Et puis, par contre, sur Twitter, j'ai un compte, mais on m'appelle souvent le Sam Fisher de Twitter, parce que, en fait, je suis souvent furtif sur Twitter. Par contre, je lis énormément de choses sur Twitter, c'est un truc que j'adore, enfin, ça me fait vraiment délirer.
Qu'est-ce qui t'a fait délirer sur Twitter ? Décidément, je suis désolé, je suis très mal poli aujourd'hui.
C'est pas grave. Je disais que j'étais le Sam Fisher de Twitter. C'est-à-dire que j'espionne beaucoup, mais je suis relativement furtif sur Twitter. Voilà.
D'accord, effectivement. Et t'as donné ton adresse, tout ça, t'as parlé
voilà, de mon pédigré, tout ça, tout ça.
T'as pas un blog à toi, en fait ?
Non, j'ai pas de blog, pas de blog perso. J'ai pas mal de passions, mais finalement, ça prend pas mal de temps, le boulot, plus le blog, le podcast. Du coup, j'ai pas mal d'autres passions. J'essaierai peut-être de faire un podcast sur le sim racing. C'est une autre de mes passions. Je pense que ça peut être relativement intéressant. Bon, on verra ce que nous réserve l'avenir.
Bon, en tout cas, c'est Julien_geeking sur Twitter.
Ouais.
Et pour moi, c'est très très simple. C'est Patrick partout, c'est Patrick Béja. Ou alors, surtout, Note Patrick, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook, twitter.com/NotePatrick, facebook.com/NotePatrick, si vous voulez me suivre un petit peu dans mes aventures franco-anglophones. Et bien sûr, si vous voulez suivre les autres podcasts de Geek Inc, de No Watch, vous pouvez aller sur nowatch.net. Les podcasts audio, c'est sur nowatch.fm. Il y en a un certain nombre, dont notamment Upload, qui est une émission consacrée à la mobilité, aux téléphones portables, aux iPads, aux tablettes et toutes ces choses-là, dans lequel officie ton collègue, Julien, Cédric.
Yep.
Qui nous a rejoint depuis quelques temps. Donc, si vous n'avez pas écouté Upload, je vous le recommande. Je prêche pour ma paroisse. Voilà. Sans aucune honte. C'est assez scandaleux, mais je le fais quand même. Bah, merci, les gars.
Bah, de rien, avec plaisir.
Arrivé au bout.
Moi, je voudrais dire merci si c'est possible. Je voudrais dire merci à ma maman et à mon papa. et puis surtout, non, je voudrais dire merci aux gens qui me disent des choses gentilles là, dans la chatroom. Je sais pas taper sur un clavier, alors je peux pas répondre, mais non, c'est sympa. Merci à tous. C'est très très gentil. Voilà.
Bah, on a pas énormément parlé de ce que tu fais en fait. On a dit vaguement machin YouTube et on l'a évoqué au tout début de l'émission. Mais c'est vrai que les gens dans la chatroom te montrent beaucoup d'amour et c'est bien mérité parce que ce que tu fais est très marrant. C'est pour ceux qui ne le savent pas, JC Frog, c'est des chansons. Et des petits moments philosophiques de réflexion sur la technologie et la vie qui sont tout à fait délicieux et que je vous recommande.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Écoute, c'est mérité. Donc voilà, merci à vous d'avoir été là, merci à la chatroom, merci au public de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans 15 jours, ça sera autour du 30 août pour une prochaine émission. Merci à tous, ciao ciao.
Salut.
Ciao. Bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.